Théologie biblique par le père Philippe à Saint-Joseph le 5 février 85.
Nous allons continuer cette lecture de l'Exode pour mieux comprendre la manière dont Dieu éduque son peuple pour lui redonner le sens religieux. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. On est en face d'une politique divine, donc d'une politique toute différente des autres politiques. Politique divine qui consiste à éduquer en premier lieu l'attitude religieuse d'un peuple qui, sous le joug du Pharaon, ne regardait plus que l'efficacité. C'était laissé prendre par l'efficacité. C'est toujours le même danger. Vous voyez, on retrouve d'une autre façon la question qu'on vient de voir avec Aristote, le citoyen vertueux ou l'homme vertueux. Et quand il s'agit de la politique divine, les deux vont se rejoindre. C'est ça que Dieu fait pour le peuple d'Israël. C'est de faire que l'homme religieux soit l'homme bon, tout court. Et suivre les commandements de Dieu, c'est donc être un bon citoyen. C'est la constitution donnée par Dieu. Et ça rejoint l'homme vertueux, l'homme religieux. Et c'est pour que nous comprenions mieux tous ces points de vue divers et en même temps comprendre que toute la philosophie politique que nous essayons, sur laquelle nous essayons de creuser, doit nous aider à comprendre. En faisant bien attention, il ne faut pas ramener ce qui nous est montré dans l'Exode à Aristote, c'est bien évident. Mais il faut comprendre que l'Exode nous donne la politique de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous comme celui qui gouverne son peuple et qui se sert de Moïse, d'un médiateur, d'un législateur pour être intermédiaire. Et alors il y a toute la grande païdéia, la grande éducation divine qui se fait par le point de vue de ce qui a été communiqué à Moïse, pour montrer comment Dieu va redécouvrir dans l'homme abîmé par le péché, va redécouvrir l'image de Dieu. C'est ça qu'il faut redécouvrir. L'image de Dieu est comme enfouie à cause des conséquences du péché. L'image de Dieu dans notre cœur, très souvent, agonise. Elle est dans l'état d'un enfant qui agonise. Et il faut redécouvrir l'image de Dieu, au sens fort, de l'homme religieux. Alors je reprends un peu avant pour que puissions bien voir. Lorsqu'un bœuf encorne un homme ou une femme et que mort s'ensuit, le bœuf sera lapidé et on ne mangera pas la chair. Et le propriétaire du bœuf sera quitte. Mais si le bœuf donnait déjà de la corne auparavant, et que son propriétaire dûment averti ne l'ait pas surveillé, ce bœuf, s'il cause la mort d'un homme ou d'une femme, sera lapidé, et son propriétaire aussi sera mis à mort. Vous voyez, les liens entre le propriétaire et la chose, tout ça c'est pour que nous comprenions mieux l'esclave et le propriétaire. On est devant ce que représente l'avoir, il y a un lien. C'est ce que nous avons beaucoup perdu, nous avons perdu ce sens-là, pour des choses bonnes du reste. On a un sens beaucoup plus grand de notre individualité, de notre personnalité. Tandis que là c'est beaucoup plus enraciné dans tout un aspect communautaire. Si on lui impose une rançon, il donnera pour le rachat de sa vie selon tout ce qui lui sera imposé. Si c'est un fils que le bœuf encorne ou une fille, on le traitera selon cette règle. Si c'est un esclave que le bœuf encorne ou une servante, on donnera 30 cycles d'argent à son maître et le bœuf sera lapidé. L'esclave représente un avoir, hein, tandis que le fils et la fille, non. C'est très significatif, là encore. Lorsqu'un homme ouvre une citerne, ou lorsqu'un homme creuse une citerne sans la couvrir, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le propriétaire de la citerne indemnisera. Il dédommagera en argent le propriétaire de l'animal et la bête morte sera pour lui. Donc là, c'est le devoir de la justice. Hein? Redonner le sens de ce que c'est que le droit de propriété, ce que représente le lien avec tel ou tel animal. Lorsque le bœuf d'un homme frappe le bœuf de son propriétaire, de son prochain, et que mort s'ensuit, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix. Ils partageront aussi la bête morte. Mais s'il était notoire que le bœuf donnait de la corne auparavant et que son propriétaire ne l'ait pas surveillé, celui-ci devra restituer bœuf pour bœuf et la bête morte sera pour lui. Lorsqu'un homme dérobe un bœuf ou une tête de menu bétail, puis l'abat ou le vend, il restituera 5 unités de gros bétail pour le bœuf et 4 de petit bétail pour la tête de menu bétail. Ça, c'est toujours très difficile à bien comprendre. Hein. Vous voyez, une justice très particulière ici. Ce n'est pas la justice commutative. C'est donc une justice distributive, qui implique une proportion. Pourquoi ? Parce qu'elle dépend d'une loi qui veut éduquer le peuple. C'est la signification profonde, c'est pour éduquer le peuple. Ce n'est pas simplement exercer une justice horizontale. Vous comprenez bien, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas faire simplement une justice qui soit une justice communautaire au niveau purement économique. Ce n'est pas ça. Dieu veut éduquer son peuple pour en faire un peuple religieux. Donc un peuple qui a le sens de ce que c'est que la justice. Et je crois que c'est la raison. C'est pas dit, mais je crois que c'est la raison, lorsqu'on garde tout le contexte. Lorsqu'un homme dérobe un bœuf ou une tête de menu bétail, puis l'abat ou le vend, il restituera 5 unités de gros bétail pour le bœuf et 4 de petit bétail pour la tête de menu bétail. Alors, il y a une progression. Hein. Heureusement que ça ne va pas plus que le bœuf. Parce qu'autrement, ça ira encore plus loin. 5 et 4. Hein. Si le voleur est surpris en pleine effragration et qu'il soit frappé à mort, il n'y a pas pour lui vengeance du sang. Mais si le soleil était levé sur lui, il y a vengeance du sang pour lui. Le voleur doit indemniser, s'il n'a pas de quoi, on le vendra pour ce qu'il a dérobé. Si ce qu'il a dérobé est retrouvé vivant entre ses mains, qu'il s'agisse d'un bœuf, d'un âne, de tête de menu bétail, c'est le double qu'il restituera. Donc vous retrouvez la même chose. Hein. Vous retrouvez le souci d'éduquer l'âme religieuse. Lorsqu'un homme fait brouter un champ ou une vigne et envoie son bétail brouter le champ d'autrui, il indemnisera avec le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. Lorsqu'un feu éclate et que rencontrant des épines, il dévore meule, moisson ou champ, celui qui a allumé l'incendie devra indemniser. Lorsqu'un homme donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder et qu'on les dérobe de la maison de ce dernier, le voleur, si on le trouve, restituera le double. Si on ne le trouve pas, le voleur, le propriétaire de la maison, s'approchera de Dieu pour attester qu'il n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Quel que soit l'objet du délit, pour un bœuf, un âne, une tête de menu bétail, un vêtement, pour tout objet perdu dont on dira « c'est bien cela », la cause des deux parties viendra devant Dieu. Celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à son prochain. Là-bas, c'est évident que c'est plus difficile de voir comment Dieu déclarera. Viendra devant Dieu, celui que Dieu déclarera coupable restituera le double à son prochain. Lorsqu'un homme donne à son prochain un âne ou un bœuf, ou une tête de menu bétail, une bête quelconque à garder, et que l'animal meurt, se casse un membre, ou est radié, sans témoin, un serment par Yahvé interviendra entre les deux parties pour établir que le dépositaire n'a pas porté la main sur le bien de son prochain. Le propriétaire de la bête acceptera et l'autre n'aura pas indemnisé. Mais si la bête a été dérobée de chez lui, il aura indemnisé le propriétaire. Et si elle a été complètement déchirée par un fauve, il la produira en témoignage et il n'aura pas indemnisé pour la bête déchirée. Lorsqu'un homme emprunte une bête à son prochain et qu'elle se casse un membre ou meurt, son propriétaire n'étant pas avec lui, il devra indemniser. Si le propriétaire est avec lui, il n'aura pas indemnisé. Si la bête était louée, cela rentre dans le prix de location. C'est la justice que Dieu apprend à son peuple. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faudrait... Vous voyez, il y a des raisons de sagesse divine. C'est des raisons de sagesse divine qu'il faut essayer de comprendre à travers ça. Mais la différence, si la bête meurt sans le propriétaire présent, je trouve ça très très joli et très important. On voit très bien tout ce que ça veut dire derrière. Hein. Parce que si le propriétaire n'est pas là et qu'elle meurt, il y a des chances qu'on ne l'a pas très bien soignée, qu'on l'a un peu brutalisée, qu'on a un peu exploité l'animal. Si le propriétaire est là, il est responsable. C'est lui qui doit intervenir. Sa prudence. S'il n'est pas là, non. C'est très très joli comme chose. Hein. Parce que ça fait comprendre les liens entre la justice et la prudence. C'est ça qui est impliqué dedans. Il n'y a pas deux aspects. Il y a un point de vue de la prudence qui intervient lorsqu'il y a la présence ou la non-présence. Et alors, tout simplement, si la bête était louée, cela rentre dans le prix de location. On n'avait qu'à prévoir. Non, mais il y a là un contrat. Et s'il y a un contrat, prix de location. Lorsqu'un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il devra payer son mohar et elle sera sa femme. Si son père refuse catégoriquement de la lui donner, il versera la somme fixée pour le mohar des vierges. Alors là, il faudrait entrer dans tout ce que ça représente comme point de vue particulier. Il faudrait regarder dans le Deutéronome, c'est le père aussi qui renvoie le Deutéronome. Nous y reviendrons, parce que alors là, voyez, vous touchez les rapports de la justice et des rapports de tempérance, de chasteté. Et les rapports du mariage, c'est une des choses extrêmement importantes à voir. Parce que c'est le fondement de toute éducation divine, c'est la question du foyer. Alors, on voit bien ce qui est montré ici. Il devra payer son mohar si elle sera, et elle sera sa femme. Si son père refuse catégoriquement de la lui donner, il versera la somme fixée pour le mohar des vierges. Alors, diverses lois morales et religieuses. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est important. Oui, parce que la sorcière joue un rôle, justement, qui est néfaste. Vous voyez, le fameux principe, tu ne tueras pas, c'est très important de comprendre ces choses-là. Parce qu'on voit très bien comment Dieu veut défendre le bien commun. Toute une notion du bien commun, ça ne pourrait pas se comprendre s'il n'y avait pas la notion du bien commun, là. Une notion du bien commun, du bien de son peuple. Peuple religieux, donc un peuple qui doit adorer Dieu. Quiconque couche avec une bête sera mis à mort. Qui sacrifie au Dieu et non à Yahvé seul sera frappé d'anathème. Tu ne molesteras pas le résident et tu ne l'opprimeras pas. Car vous avez été des résidents au pays d'Égypte. Alors, la mémoire. Pourquoi Dieu a-t-il permis que le peuple d'Israël soit en Égypte? Pour qu'il comprenne et devienne miséricordieux vis-à-vis de celui qui est immigré, résident. Vous ne maltraiterez ni veuve ni orphelin. Si tu le maltraites, dès qu'il criera vers moi, j'entendrai son cri. Ça, c'est à souligner par rapport au mystère du paraclet. Dieu qui entend le cri de l'enfant. Si tu le maltraites, la veuve et l'orphelin, ceux qui n'ont pas de défense, ceux qui sont sans défense, et c'est Dieu lui-même qui prend la défense. Vous ne maltraitez ni veuve ni orphelin. Si tu les maltraites, dès qu'il criera vers moi, j'entendrai son cri. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par le glaive. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Vous n'avez pas respecté la veuve, vous n'avez pas respecté l'orphelin, eh bien, vous allez, voyez, il y a une espèce de morale de bascule, comme disait mon professeur d'exégèse quand on voyait ces textes-là, c'est la morale de bascule. C'est pas tout à fait juste. Je crois que c'est beaucoup plus profond de dire que c'est une morale d'expérience que de dire une morale de bascule. C'est pas ça. C'est que Dieu veut inculquer un certain sens de responsabilité et inculquer le sens de la responsabilité au niveau divin, au niveau religieux. Alors c'est pour ça que de temps en temps, il y a des parallélismes comme ça, mais ce n'est pas une morale de bascule. La morale de bascule, ce n'est pas ça du tout. Ça tomberait dans quelque chose qui ne serait plus moral. Oui. Tu fais ça, eh bien tu recevras ça. Si tu as fait ça, tu auras là. Ça, c'est pas la morale. C'est les ornières. C'est pas la morale. Dieu ne traite pas comme ça. Dieu ne peut pas traiter comme ça. Parce que Dieu regarde la personne et le salut de l'homme. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, aux pauvres qui est près de toi, tu n'agiras pas à son égard comme un créancier. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, si tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est son unique couverture, c'est son vêtement pour sa peau. Dans quoi coucherait-il ? Que s'il crie vers moi, je l'entendrai, car je suis compatissant. Et c'est Dieu lui-même qui intervient au point de vue des injustices par rapport à ceux qui sont lésés par le prochain. Alors il y a le pré-intérêt qui est très intéressant là, vous voyez, pour ceux qui s'intéressent à la question du pré-intérêt. Bon, il y a le petit dossier du pré-intérêt, il faut noter ça ici. Parce que c'est intéressant, c'est une grosse question, une question très très importante. L'argent ne fait pas de petit. Il y a à voir ici ce que le Seigneur fait. La protection, et c'est signe de protection. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est près de toi, tu n'agiras pas à son égard comme un créancier. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Parce qu'il ne peut pas, il est dans un état de détresse, dans un état de misère. Il ne faut pas exploiter la misère de quelqu'un. Ça va contre le respect à l'égard de la personne. Tu ne maudiras pas Dieu. Tu ne parleras pas en mal d'un prince de ton peuple. Tu ne tarderas pas à offrir de la plénitude de ton air et du jus de ta cuve. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Ainsi feras-tu pour ton bœuf, pour ton petit bétail. Mais toujours le lien, la famille et puis tout ce qui est autour de la famille. C'est la même chose pour Abraham, ses fils et son bétail. Et ça, c'est le vieux sens de la famille. C'est le vieux sens de la famille, c'est que la famille ne peut vivre que s'il y a le petit bétail à côté, ou le gros bétail. Ah, tu me donneras le premier-né de tes fils, aussi feras-tu pour ton bœuf, pour ton petit bétail. Il restera 7 jours avec sa mère, le 8e jour, tu me le donneras. Ah, toujours ça, c'est le rappel du premier-né massacré en Égypte. Et toujours le premier-né qui est donné à Dieu. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas la chair d'une bête déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Alors, vous voyez, le dernier point est très intéressant parce que ça nous donne la clé. Morale qui conduit à la sainteté. Alors, est-ce que c'est plus qu'une morale religieuse ? C'est ça la question qui nous intéresse pour nous. Est-ce que c'est plus qu'une morale religieuse ? C'est une morale qui est déjà, vous voyez, pour les différents aspects que nous avions étudiés ensemble, nous avions dit éthique humaine, éthique religieuse, éthique chrétienne. Doit-on mettre entre les deux l'éthique telle qu'elle nous est donnée ici, dans l'exemple. L'éthique de l'Exode. L'éthique de l'Exode tend vers la sainteté. Toute la justice, toutes les règles de justice qui sont données tendent vers la sainteté. Alors moi je disais éthique religieuse qui impliquait l'éducation de Dieu. Une éthique religieuse qui implique l'éducation de Dieu, ça c'est sûr. Alors, est-ce que l'éthique qui tend vers la sainteté est-elle plus que l'éthique religieuse ou est-ce que l'éthique, toute éthique religieuse comme telle tend vers la sainteté? C'est un problème qu'il faut travailler, ça. Je ne vais pas le régler maintenant. Mais je souligne simplement, parce que c'est important. C'est important à bien voir. L'éthique chrétienne tend vers la sainteté. Ça, c'est sûr. Soyez saint comme Dieu est saint. Soyez parfait comme Dieu est saint. Et parfait. L'éthique chrétienne tend vers le point de vue des béatitudes. C'est l'éthique des béatitudes, l'éthique chrétienne. L'éthique religieuse, ce n'est pas l'éthique des béatitudes. C'est l'éthique de l'adoration. Elle se fonde sur l'adoration. Elle s'achève dans la contemplation. Alors, est-ce que adoration et contemplation, est-ce que c'est le mystère de la sainteté? Oui, ça pose des problèmes intéressants et importants. Parce qu'au fond, c'est le Dieu créateur qui est révélé dans les hommes. Or, l'éthique religieuse repose sur le Dieu créateur. Le Dieu créateur est le Dieu Père, hein, c'est pas le Dieu. Le Dieu créateur, c'est le Dieu Père. C'est le Dieu Père qui conduit son peuple. Qui l'a... Alors, il y a quelque chose de positif. C'est bien évident, ce n'est pas n'importe quelle éthique religieuse. Ça, tout à fait d'accord. Ce n'est pas n'importe quelle éthique religieuse. C'est une éthique religieuse très particulière, celle de l'exemple. Mais y a-t-il plus qu'une éthique religieuse? C'est la question que se posait. Vous voyez, on essaiera au terme. Hein. Je souligne maintenant simplement parce que ce petit passage est important pour nous. À bien voir. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas la chair d'une bête déchirée dans le champ, vous la jetterez au chien. Alors, c'est très curieux. Hein. On penserait, quand on est en face de la sainteté, que tout de suite on mette un commandement très élevé et qu'on revienne à l'adoration. En face de la sainteté, un précepte positif. Vous ne mangerez pas la chair d'une bête déchirée dans les champs. Donc, une loi de l'aliment. Une règle positive de l'aliment. C'est très étonnant hein, de voir que la sainteté est liée à ça. Alors, vous voyez, c'est peut-être là qui nous ferait, ça nous aide à comprendre ce que c'est qu'une éthique religieuse. Dans l'Ancien Testament, dans la philosophie grecque, hein, quand vous regardez la première éthique religieuse qui nous soit révélée, qui nous soit donnée plus exactement, elle n'est pas révélée, mais la première éthique religieuse qui nous est donnée, c'est celle des pythagoriciens. Et l'étude des pythagoriciens est très liée à tout un règlement, une réglementation de l'aliment. Alors, quel est le lien entre éthique religieuse et le règle, un point de vue de l'aliment? Parce que ça, c'est net, hein, ici. C'est intéressant à voir ça. Parce que l'éthique religieuse, on pourrait dire, l'éthique religieuse comme éthique religieuse, elle est libérée de ce point de vue-là. Parce qu'elle regarde vers quelque chose de bien plus élevé. Pas du tout. Sanctification de l'âme et du corps. Et donc une ascèse. Et c'est lié à une ascèse. Et donc c'est lié à l'aliment, à l'alimentation. Et c'est lié à l'alimentation pour montrer la pureté du corps. Hein. Pas manger la chair d'une bête déchirée dans le champ. On ne sait pas comment elle est morte. Hein. C'est pas ce qu'elle est. Alors, attention. Alors, il y a en même temps, c'est ce que diront les gens d'un caractère très positif. Ils diront, mais oui, c'est tout simplement au point de vue de la pour maintenir la santé, c'est tout simplement. Ah non, c'est plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a quelque chose qui est lié à la sainteté. Quelque chose qui est lié à la sainteté. Et qui fait que... Alors c'est là où il faut essayer de... On y reviendra, parce que c'est intéressant, quand on voit l'éthique religieuse, de voir que l'éthique religieuse va impliquer une éducation qui regarde l'aliment. Nous l'avions déjà vu avec la manne. Dieu éduque son peuple par la manne. Ça, il l'éduque. Il éduque son peuple par l'écaille. Il l'éduque de cette manière-là. Et au point de vue chrétien, on aura l'éducation de la sainteté par l'aliment. L'Eucharistie. On a l'impression, c'est très à voir, on a l'impression que plus on s'élève loin, plus on s'élève haut dans une éthique, plus les préceptes seront précis dans l'ordre alimentaire. Il y a comme une espèce d'exigence particulière. Comme une espèce d'exigence particulière de la sainteté et du corps. Oui. C'est pas du tout, c'est très contraire à tout l'aspect platonicien. Et dans la philosophie pythagoricienne, c'est très net. Ce sont les premiers préceptes de prendre certains aliments qui sont des aliments purs, des aliments impurs, des aliments qui sont bons, qui vous alourdissent. Quand vous prenez certains aliments qui vous empêchent de contempler ou d'adorer, c'est très très mauvais. Donc si vous avez un souci religieux, mais vous les écartez. Et on comprend très bien. Oui. Tu ne répandras pas un faux bruit. Tu ne prêteras pas la main au coupable en servant de témoin à charge. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras pas dans un procès en déviant du côté du grand nombre pour faire dévier le droit. Tu n'auras pas de complaisance pour le faible dans son procès. Alors là, c'est vraiment la justice par rapport à toute la procédure du droit. Et des conseils qui sont donnés pour la manière dont on doit regarder les différents procès. Je crois qu'il faut le rattacher justement toujours à cette espèce de respect qu'on doit vis-à-vis de l'homme. Tu ne prêteras pas la main au coupable en servant de témoin à charge. Tu ne suivras pas la multitude en étant tenté par la facilité. Tu n'auras pas de complaisance pour le faible dans son procès. La justice ne doit pas se laisser impressionner par le nombre, elle ne doit pas se laisser impressionner par la fragilité, la faiblesse. Quand tu rencontreras le bœuf de ton ennemi, ou son âme égarée, tu devras le lui ramener. Quand tu verras l'âme de celui qui te hait couché sous sa charge, te gardera de l'abandonner. Tu devras aider la bête avec lui. Alors, le commencement de l'amour à l'égard du prochain, à l'égard de l'ennemi. Alors là, c'est ton avis de la justice. L'ennemi demeure un homme. Et donc, il y a un devoir de justice qu'il faut maintenir. Tu ne feras pas dévier le droit de ton indigent dans son procès. Tu te tiendras éloigné d'une cause mensongère. Ne tue pas l'innocent, ni le juste, car je ne justifie pas le coupable. Tu n'accepteras pas de cadeau, car le cadeau aveugle, les clairvoyants et ruine la cause des justes. Ça, c'est pour les pots de vin, on voit très bien. Par en dessous, on glisse le petit cadeau, et puis comme ça, on arrive à modifier. Tu n'accepteras pas de cadeau, car le cadeau aveugle et clairvoyant et ruine les causes des justes. C'est tellement vrai tout ça, hein. Ça touche la réalité très très forte au point de vue humain. Et c'est le droit, vous voyez. Toute la question d'établir un droit au point de vue humain. Tu n'opprimeras pas le résident. Vous savez vous-même ce qu'éprouve le résident, car vous avez été des résidents au pays d'Égypte. Toujours la même raison. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la 7e, tu lui feras rémission et la laissera en jachère. Les indigents de ton peuple s'en nourriront, et les bêtes des champs se nourriront de ce qu'ils auront laissé. Ainsi feras-tu pour ta vigne, pour ton olivier. Ça fait partie de l'éducation, n'est-ce pas, de l'éducation par rapport à ce que représente le point de vue de l'art de cultiver, qui s'étend jusque, le sabbat s'étend jusque-là. Parce que ça, c'est l'aspect religieux. Vous voyez, au-delà du propriétaire, il y a l'aspect religieux. Il faut sanctifier tout ce que l'homme touche, atteint. Donc pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en récolteras le produit. Mais la 7e, tu lui feras rémission et la laisseras en jachère. C'est le sabbat. Pendant 6 jours, tu feras tes travaux, mais le 7e jour, tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et le résident reprennent haleine. Alors, il y a toujours ces deux aspects, vous voyez, il y a un aspect de justice, et puis il y a un aspect religieux. Mais c'est assez curieux. Et les deux sont très liés. Hein. Parce que si vous regardez ici le motif n'est plus le point de vue de la création que nous avions vu précédemment, qui est le motif religieux. Ici, vous avez un motif horizontal. Alors évidemment, au point de vue exégétique, si vous étudiez ça, vous direz il y a deux influences. Il y a l'influence religieuse et l'influence tout simplement des traditions du pays. Ce qui peut être très juste, ça n'a aucune espèce d'importance pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment Dieu à la fois éduque religieusement et éduque humainement. Autrement dit, vous voyez, la morale religieuse, hein, parce que c'est ça que nous essayons de comprendre, la morale religieuse assume la morale humaine et ne fait pas du tout une espèce de séparation. L'homme religieux est nécessairement un honnête homme. Ça ne peut pas être autrement. Là, il n'y a pas possibilité de passer autrement. Un homme religieux est nécessairement un honnête homme. Et l'homme religieux, plus il est religieux, plus il doit être un honnête homme. Vous savez ce que disent les gens habituellement ? Les religieux et les religieux sont tellement perdus en dévotion qu'ils commettent des injustices de premier ordre par rapport à tous ceux qui sont autour. Et c'est pour ça qu'on dit ordinairement que les monastères n'avaient pas une si bonne renommée. Et ça va vite, ça va très vite. Autour de Cluny. On l'a dit, ça. Et c'est très vrai, je me souviens, bien avant qu'on soit auprès de Cluny, je connaissais quelqu'un qui n'était pas très loin, et disait que c'était les lieux les plus païens de la France. Parce que le monastère aurait dû, mais pas du tout, ne faisait pas attention. Mais l'immanence religieuse qui oublie l'éthique humaine. Alors ça, c'est dit avec beaucoup d'importance. Ça, c'est très important pour nous de comprendre que l'éthique religieuse implique toujours un aspect humain et ne détruit pas l'aspect humain. Et que plus l'éthique religieuse va loin, plus Dieu a le souci de montrer le point de vue. Parce que nous, on dirait ça, « Oh ben oui, il y a deux espèces de gens. Il y a des gens qui voient l'aspect religieux et puis des gens qui voient l'aspect uniquement pratique. Pendant 6 jours, tu feras des travaux. Mais le 7e jour, tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent. » Ça n'a rien à voir avec le point de vue du repos de Dieu, ça. « Et que le fils de ta servante et le résident reprennent haleine. » C'est tout à fait humain, ça. Et de justice humaine. Les gens ont besoin de s'arrêter de temps en temps. « Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, vous ne prononcerez pas le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende plus sur ta bouche. » Ah, c'est farouche. Ah, ce Dieu, Yahvé. À 3 reprises. Alors maintenant, on va revenir. Ça, c'est ça le point de vue horizontal. Hein. Et le motif horizontal. N'oubliez pas l'autre aspect. Hein. Les deux sont liés. Toujours. Il y a une efficacité humaine et une efficacité divine dans l'adoration et dans le respect du sabbat. Le sabbat implique les deux, implique une harmonie au niveau économie et implique alors quelque chose de beaucoup plus grand au milieu du travail, l'aspect de la transcendance, du repos de Dieu. C'est marqué de cette manière. À 3 reprises, tu me fêteras dans l'année. Alors là, nous allons voir les grandes fêtes religieuses qui sont impliquées et qui sont dictées par Dieu. Donc toute la liturgie, comment le travail devient une offrande à Dieu et comment le travail doit être lié à cette offrande à Dieu. À 3 reprises, tu me fêteras dans l'année. Tu observeras la fête des azimes pendant 7 jours. Tu mangeras des azimes selon que je t'ai commandé. Au temps fixé du mois d'Abib. Car c'est en ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et on ne préparera pas devant moi, et on ne paraîtra pas devant moi les mains vides. Tu observeras aussi la fête de la moisson, des premiers fruits des travaux, de ce que tu auras semé dans les champs, puis la fête de la récolte à l'issue de l'année, quand tu récolteras des champs le fruit de tes mains. 3 fois dans l'année, toute la population mâle paraîtra devant le Seigneur Yahvé. On va se demander pourquoi le chiffre 3, pourquoi cette ponctuation selon le rythme et selon le rythme même des saisons. Tu ne sacrifieras pas avec du pain levé le sang de ma victime et la graisse de ma fête ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison d'Yahvé, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Là, ça commence les préceptes aussi, qui sont très importants à noter. Ne pas faire de faux alliages. Alors là aussi, je crois qu'il y a toujours les deux aspects. Il y a un aspect religieux qui est premier. Il y a un aspect aussi, au point de vue humain et de la santé humaine. Voici que moi, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et pour te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Sois sur tes gardes devant lui et écoute sa voix. Ne lui sois pas rebelle. Il n'enlèverait pas vos forfaits parce que mon nom est en lui. Et si tu écoutes vraiment sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je me ferai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est Dieu lui-même qui se met dans cette alliance. Car mon ange marchera devant toi et te fera entrer chez les Amoréens, les Hittites, les Périsites, les Cananéens, les Hivites et les Jébuséens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu ne les serviras pas. Tu ne feras pas comme ils font, mais tu devras les démolir et briser leurs stèles. Vous servirez Yahvé, votre Dieu. Il bénira ton pain et ton eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas devant ton pays de femme qui avorte ou qui soit stérile. Je te ferai accomplir tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez qui tu pénétreras. Et je ferai que tous tes ennemis te montrent le dos. J'enverrai devant toi les frelons qui chasseront de devant toi les Hivites, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année, de peur que le pays ne soit une désolation et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. C'est peu à peu que je les chasserai devant toi jusqu'à ce que tu fructiferas et tu hériteras du pays. J'établirai ton territoire depuis la mer des joncs jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront pas dans ton pays de peur qu'il ne te fasse pécher contre moi. Tu serviras leur Dieu et cela deviendrait pour toi un piège. Donc c'est l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël qui s'étend sur le pays, le territoire vers lequel Dieu fait entrer son peuple. Vous voyez toujours cet enracinement de l'alliance, hein? Et je crois que ça, c'est toujours très important à voir. Cet enracinement, ce qui fera comprendre, du reste, voyez, comment on pourra arriver à un messianisme temporel. Parce que c'est vrai qu'il y a cet enracinement. Cet enracinement existe, et Dieu le demande. Mais cet enracinement n'est pas exclusif de l'autre aspect. C'est une alliance qui doit s'enraciner dans un pays, mais c'est une alliance qui est faite en premier lieu dans un point de vue religieux. Et c'est lorsque le point de vue religieux ne sera plus premier que cet enracinement donnera naissance à un messianisme temporel. Le messianisme temporel, vous voyez, il est latent là, il n'est pas présent, parce que l'alliance est premièrement une alliance religieuse. Et l'alliance est premièrement une alliance d'adoration. Alors vous voyez comment Dieu veut protéger Moïse et son peuple. Voici que moi, je vais envoyer un ange devant toi pour te guider en chemin. Alors ça reste très mystérieux, l'ange envoyé devant pour garder en chemin et pour te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. Alors vous pouvez le comprendre de façon spirituelle, ça c'est facile à comprendre. L'ange, c'est Dieu lui-même. C'est ce qu'on peut dire. On peut dire que l'ange, c'est Dieu lui-même. Celui qui est envoyé par Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc l'ange, c'est Dieu lui-même. C'est comme l'esprit de Dieu qui est communiqué à Moïse pour le diriger, pour l'orienter. Mais ça peut être aussi comme un secours particulier de Dieu. Alors l'ange, c'est un secours spécial de Dieu. Et ce secours est donné pour arriver jusqu'à la terre promise. Sois sur tes gardes, devant lui, et écoute sa voix. Donc on demande à l'ange qui est un envoyé de Dieu la même attitude qu'à l'égard de Dieu lui-même. On doit être dans cette attitude d'éveil, écouter sa voix. Ne jamais être rebelle. Être respectueux dans une attitude de confiance et d'obéissance. Mais si tu écoutes vraiment sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je me ferai l'ennemi de tes ennemis. Voilà le fruit de l'alliance. C'est que Dieu lui-même prend le goût de ceux qu'il aime. Et ceci est exprimé par le fait que les ennemis de son peuple deviendront les ennemis de Dieu. Et l'adversaire du peuple deviendra l'adversaire de Dieu. C'est bien le mystère des épousailles qui commence, mais d'une façon très cachée. Mais c'est bien le mystère des épousailles. Dans l'ordre de l'amitié, c'est que quand l'amitié devient plénière, les ennemis de l'ami deviennent les ennemis de son ami. Les adversaires deviennent les adversaires de son ami. Alors à ce moment-là, on peut dire qu'on est en présence d'un mystère d'épousailles. Et ça commence de cette manière-là. Et c'est pour ça que le mystère des épousailles, Yahvé époux de son peuple, c'est pas quelque chose qui tout d'un coup arrive, non. C'est quelque chose qui est déjà annoncé. Vous voyez, c'est annoncé dès le point de départ à propos de la bénédiction d'Abraham. Dieu bénit Abraham d'une bénédiction telle que tous ceux qu'Abraham béniront seront bénis par Dieu. Et tous ceux qui s'opposeront à Abraham seront opposés. Donc on retrouve toujours cette grande exigence de l'amour d'amitié, et cet amour d'amitié dans sa modalité la plus parfaite, époux et épouse. Alors l'ange marche devant pour indiquer la route. Encore une fois, qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce que c'est que cet ange ? On peut se poser la question, personne ne peut répondre d'une façon absolue. Alors, vous avez toutes les herméneutiques diverses là-dessus. Ce qu'il faut, c'est de montrer, je crois, que c'est nécessairement un secours particulier de Dieu. Et alors, cette loi qui est très importante, hein, cette loi très importante qui fait que Dieu demande à son peuple de se séparer des autres, de ne pas habiter avec les autres. Il a trop bien vu ce qui s'était passé en Égypte. Israël se laisse prendre pour faire comme les autres. Et donc, au bout d'un certain temps, d'adorer les mêmes dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'il ne te fasse pécher contre moi. Tu servirais leur Dieu et cela deviendrait pour toi un piège. Donc, l'idée fondamentale, c'est toujours le mystère de l'adoration dans ce qu'il a de plus pur. C'est cette adoration qui doit être dans la pureté parfaite. Et pour que l'adoration soit la pureté parfaite, il faut que cette adoration s'adresse à l'unique créateur, à l'unique Dieu. Et tout le reste est commandé par cela. Dieu sait la faiblesse de son peuple. Dieu connaît combien son peuple essaie de s'adapter, ce qu'il a fait en Égypte. Et alors, en faisant cela, il perd le sens de la véritable adoration. Et pour maintenir ce trésor, puisqu'au fond on peut dire que c'est le trésor que Dieu a confié au peuple d'Israël, c'est le seul peuple monothéiste qui le soit parfaitement. Eh bien, pour maintenir ça et maintenir ce trésor, il faut accepter d'être dans cette situation particulière, d'être séparé des autres. Et évidemment, ça aura de très grosses conséquences. Parce que être séparé des autres, c'est nécessairement créer des jalousies. Être séparé des autres, c'est créer nécessairement des inimitiés, des oppositions. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est Dieu qui demande cela. C'est Dieu qui demande cette séparation pour une adoration pure. Une adoration sans contamination. Oui, ça fait très bien comprendre ce que Jésus dit à la Samaritaine, hein, les adorateurs en esprit, en vérité. C'est au terme. Alors, à partir de ce moment-là, ce n'est plus l'aspect extérieur qui va commander, puisqu'il s'agit de cette adoration qui va s'enraciner de plus en plus. Mais au début, étant donné les imperfections, étant donné les tentations, il faut la séparation. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez qui tu pénètres. Alors voyez que la présence de l'ange devient la terreur. J'enverrai ma terreur devant toi. Alors est-ce que ce sont des aspects différents du mystère de Dieu, la présence qui illumine, qui indique, la terreur qui fait qu'ils deviennent des intouchables si on les attaque immédiatement? J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez qui tu pénétreras et je ferai que tous tes ennemis te montrent le dos. Donc s'en vont. J'enverrai devant toi les frelons qui chasseront de devant toi tous les autres pays. Je ne les chasserai pas devant toi en une seule année. Alors tout l'aspect de la sagesse de Dieu, si ces frelons venaient d'où, alors le terrain serait absolument impossible. Il faut qu'ils soient envoyés progressivement, successivement. La sagesse de Dieu, la miséricorde de Dieu et l'amour paternel de Dieu. Alors ce qui est important, vous voyez, c'est d'essayer de comprendre, hein, parce que c'est ça qui est difficile au point de vue théologique. Cette prédilection de Dieu qui se traduit de cette manière-là. Voici que moi, je vais envoyer un ange. Mon ange marchera devant toi. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples. Alors, il s'agit de comprendre cette protection spéciale de Dieu, protection non seulement au niveau de la foi, comme il avait donné à Abraham, mais une protection qui semble quelque chose de beaucoup plus concret. Et qui semble permettre au peuple d'Israël de se constituer en peuple. C'est la différence avec Abraham, vous voyez. C'est comme s'il y avait une expérience malheureuse, l'expérience d'Égypte, hein, qui était une expérience malheureuse, ça c'est bien évident, où le peuple d'Israël a été trop mêlé et alors s'est laissé tyranniser. Cette expérience malheureuse, Dieu va à tout prix l'éviter. Et là, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'intervention de Dieu beaucoup plus forte, l'ange de Dieu, la terreur de Dieu, pour défendre son peuple.